Les matins de France Culture, 7h-9h, Guillaume Erner.
Bonjour Pierre-Henri Castel.
Bonjour.
Vous êtes philosophe, psychanalyste et vous avez notamment publié Le Mal qui vient, essai hâtif sur la fin des temps. C'est aux éditions du Cerf et je vous ai invité parce que vous avez beaucoup réfléchi sur la peur et ici, lorsque l'on évoque les actualités, il est très souvent question de raisons d'avoir peur, pollution, inondation, contamination et puis terrorisme. On vient d'en parler avec la mort d'Al-Baghdadi. Votre regard de philosophe et de psychanalyste sur ces déclarations étonnantes, ces scènes, cette mort donc du chef de Daesh.
C'est la chose qui m'a beaucoup frappé en lisant, puisqu'on a parlé de la revue de presse hier, le New York Times, c'était le vocabulaire dans lequel Trump a décrit ce chef terroriste. Il le traite de chien et de lâche, c'est-à-dire précisément le vocabulaire en miroir de la rhétorique islamiste. Et puis il y a un détail quand même qui est extrêmement frappant, c'est qu'on lisait dans le journal qu'en fait ils l'ont identifié avec son ADN sur des morceaux. Ils ont emmené des morceaux du cadavre puisqu'il s'est fait sauter avec une bombe, ce qui fait quand même assez froid dans le dos, comme remarque. Moi, ce qui m'a vachement frappé dans la façon dont les choses se passaient, c'est que quand on se fait des idées du mal absolu et le terrorisme, surtout le grand méchant comme Al-Baghdadi en est une figure, c'est qu'on a vraiment le sentiment que là, on cherche à produire des effets d'inimaginables, c'est-à-dire des choses qui défient complètement les représentations, et donc du coup, on n'arrive pas du tout à penser à quoi pourrait ressembler vraiment le mal. On avait des figures comme ça qui étaient liées aux nazis à Nuremberg, par exemple, ou des choses comme ça. Là, on en produit d'autres avec la crise climatique globale. Sauf que si on en reste à des images, à des choses qui fonctionnent en miroir, comme ça, on n'arrive pas du tout à concevoir à quoi ça ressemble. On peut même pas savoir ce qu'il y a de commun, par exemple, entre ces grandes figures du mal, et encore moins à quoi elles pourraient ressembler demain.
Mais alors, Baghdadi, précisément, avait été particulièrement expert, lui ou son organisation, dans des mises en scène qui étaient particulièrement atroces, avec un très grand raffinement dans l'horreur et une nouveauté par rapport aux autres formes d'horreur, parce que le XXe siècle a été particulièrement abondant en la matière. Les horreurs nazies étaient, par exemple, des horreurs que l'on cachait. Les nazis ne voulaient pas assurer une large médiatisation.
Alors, les juifs est caché, mais le fait qu'on décapitait les gens à la hache lors de la prise du pouvoir par les nazis, c'était au contraire des effets de terreur qui étaient produits par des images complètement spectaculaires. Ce qui est impressionnant quand on voit Trump raconter ce qui s'est passé, c'est qu'il le décrit courant d'ailleurs avec ses enfants, puisqu'il s'est fait sauter avec ses enfants dans un bout de tunnel en aboyant comme un chien terrifié. C'est-à-dire qu'en fait, il produit une sorte d'image symétrique de ces pauvres gens égorgés en tenue orange par les miliciens de l'État islamique, quelque chose dans lequel on joue là-dessus. Et est-ce que c'est le propre des démocraties ou des États modernes que de s'aligner sur le registre imaginaire du mal et de l'horreur de leurs ennemis? Surtout qu'en fait, il faut pas non plus rêver, aucun État moderne n'a jamais été mis et ne sera mis en péril par le type de terroriste dont on parle là.
Non, mais ils nous ont frappés.
Et de manière... Ils tuent des gens, mais ils sont incapables de détruire nos structures politiques.
Mais ils ont mis la France dans un état d'effroi, de sidération, avec...
Oui, mais enfin, ils n'empêchent pas la tenue des élections, le fonctionnement des institutions, le fonctionnement de l'économie. C'est-à-dire qu'en fait, il ne faut pas se laisser impressionner non plus, précisément par les émotions sinistres qu'ils réussissent à susciter par les crimes qu'ils commettent. C'est pas la destruction du pays, c'est pas la Tchétchénie, c'est pas des histoires comme ça.
Non, mais précisément, la peur et l'effroi... dont vous êtes un spécialiste, si j'ose dire, Pierre-Henri Castel.
Merci
n'est
beaucoup.
Pas forcément proportionné. J'ai pas dit que vous faisiez peur. J'ai dit que vous aviez analysé cela n'est pas forcément proportionné aux dégâts qui sont objectivement
Absolument.
Causés par
Exactement.
Ces individus. Et donc,
Exactement.
S'il y a matière à réflexion sur les causes pour lesquelles ces hommes, donc là en l'occurrence Baghdadi, mais il n'est pas le seul dans une tératologie de tous les monstres que comporte l'histoire. Qu'est-ce qui peut inciter un individu à se comporter de cette façon, à mettre en scène le caractère maléfique de l'homme?
Ben, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'incitation d'autre que la jouissance très profonde qu'on peut y trouver. Je veux dire, quand on m'interrogeait sur le mal qui vient, il y avait une image qui me venait, un souvenir qui me venait d'histoire très très simple. C'est ce qui se passe avec les nazis pendant l'hiver 44, où ils savent qu'ils ont totalement perdu la guerre, et où par exemple les historiens ont bien documenté le fait que les nazis et l'état-major allemand arrêtent les trains qui vont vers l'Est transporter des munitions et des fournitures militaires pour laisser passer les trains qui emmènent les juifs hongrois à la mort à Auschwitz. Et donc, consommant la catastrophe militaire. Et moi, ce qui m'a toujours énormément frappé, c'est que les gens qui ont pris ce type de décision savaient qu'ils ne survivraient pas, savaient qu'ils ne jouiraient même pas de leur vivant du résultat de ce crime. Ça les a absolument pas empêchés de le commettre. Et ça, ce qui me frappe beaucoup, c'est qu'on oublie toujours cette possibilité, cette dimension du mal pour le mal, parce qu'on la pousse sous le tapis en la considérant comme un gadget philosophique ou quelque chose qui n'existerait pas réellement dans la vie et dans l'histoire.
Mais justement, le mal pour le mal, Pierre-Henri Castel, vous qui êtes philosophe et psychanalyste, Baghdadi avait réussi à construire un État, mais c'était un État étrange parce que, bon, vous dites, il ne menaçait pas les démocraties au sens où il ne menaçait pas leur fondement, il ne pouvait rien faire pour renverser les États-Unis, la France, que sais-je. Il n'avait pas non plus des véritables talents de constructeur d'État, puisque s'il avait été constructeur d'État, il aurait fait de la politique.
Ça, je suis plus sceptique, si vous permettez.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que, comme nous vivons, nous, dans des sociétés complètement, officiellement sécularisées, on tend complètement à oublier la part que les grandes religions jouent dans la promotion des idéaux de justice. Et d'ailleurs, même chez nous, il faut pas l'oublier non plus. On raconte toujours comme ça. C'est Marcel Gaucher qui a beaucoup popularisé cette idée, que la démocratie et les formes modernes de la vie politique sont liées au déclin du religieux, en oubliant que non seulement chez nous, mais alors manifestement dans quantité d'autres pays, les idéaux de justice sont portés par la religion, et que autour de ces idéaux de justice, il faut surtout pas s'imaginer que l'islam politique, que ce soit en Iran, que ce soit aussi chez les sunnites ou des choses comme ça, ne soit pas profondément animé par le fait que c'est la religion qui porte ces idéaux de justice. Et que ça, c'est un facteur d'organisation politique dont on n'est pas prêt de voir la fin.
Oui, ce n'était pas dans ce sens-là que je disais que c'était un mauvais constructeur d'État. Je disais que c'était un mauvais constructeur d'État parce que il n'avait pas réussi à organiser une production, une organisation de l'État telle que la pérennité de cet État aurait pu être...
On ne l'a pas non plus franchement laissé faire.
On ne l'a pas trop laissé faire et en ce sens, on a probablement eu raison. Mais ce que vous évoquiez avec la comparaison avec le nazisme et ce moment particulier crépusculaire où le nazisme devient et un nazisme millénariste parce qu'ils savent que l'épopée du nazisme s'achève et qu'ils préfèrent donc le génocide des juifs plutôt que de tenter de s'en sortir ou de se battre. Ce moment avec Baghdadi avait commencé beaucoup plus tôt. Il y a une dimension extrêmement millénariste dans mouvement, un mouvement qui cherche à hâter la fin du monde plutôt que de construire quelque chose de durable. Là aussi, quel est votre point de vue là-dessus?
Je pense qu'il ne faut pas confondre les images que les gens manipulent avec les raisons profondes d'adhérer à ce type de programme. Les raisons profondes d'adhérer à ce type de programme, c'est que les catégories religieuses soutiennent et permettent d'articuler une des revendications de justice qui sont tellement manifestement bafouées par les états policiers autoritaires, voire totalitaires, qui ont régné partout, en Syrie, en Irak, etc., qu'ils ont nécessairement un avenir devant eux. Et c'est pour ça que ça nous est souvent... Il suffit de voir le discours qu'on tient sur l'islam chez nous. C'est souvent une méconnaissance qui d'ailleurs montre aussi la méconnaissance qu'on a des contributions des grandes religions, enfin du christianisme, etc., à la formulation des idéaux de justice, de solidarité, d'égalité, de responsabilité personnelle, etc., etc., qui sont extrêmement actifs et qui l'ont toujours été dans la modernité. Et ça, je crois que c'est ça le point. On se laisse aveugler par la mythologie les grandes images catastrophiques en oubliant qu'il n'y a pas que ce facteur qui est mobilisateur. C'est pas des pantins manipulés par de la propagande. C'est des gens qui constatent des injustices effroyables.
Et alors, dans ces conditions, la mort du chef, qu'est-ce qu'elle change?
Elle change rien. Je pense que, à part les intérêts démagogiques de certains, tout le monde est bien persuadé que ça ne change rien, puisque les situations d'inégalité, d'injustice, etc., qui prévalent, ne trouveront que des catégories religieuses pour s'exprimer pendant encore très longtemps dans cette partie du monde.
Et cependant, le chef dans ce type de mouvement, Pierre-Henri Castel, ça n'est pas rien.
Oui, ça abîme l'image. C'est vrai que ça abîme l'image. Bon, mais il me semble que personne ne doute aujourd'hui que la mort d'Oussama Ben Laden n'a pas éradiqué Al-Qaïda et que d'autres formes de terrorisme du même genre peuvent se produire. Enfin, je ne pense pas que ce soit une découverte.
Vous avez également réfléchi à d'autres formes de peur. Alors, des peurs qui ne sont pas d'origine terroriste, mais des peurs qui conduirait là aussi à la fin du monde. Est-ce qu'il y a une attitude spécifique à notre époque vis-à-vis de la peur, puisque jamais probablement on a expliqué qu'on avait autant de bonnes raisons d'avoir peur, Pierre-Henri
Castel? Non, c'est pas la première fois, puisque on l'oublie, parce qu'en fait il y a des effets d'amnésie chaque fois qu'on a des grandes angoisses comme ça. Mais rappelez-vous, je sais pas si vous étiez né, Guillaume Herner, mais moi j'avais 3 ans, la crise des fusées. Il y a eu des moments comme ça. On était au bord de la guerre nucléaire. Les gens, il y a vraiment eu, entre la fin de la Deuxième Guerre mondiale et la découverte de la bombe atomique et la possibilité de l'hiver nucléaire, une angoisse de la guerre entre l'Union soviétique et les États-Unis, qui était une angoisse poisseuse, constante, palpable, qu'on a totalement oubliée et dans lequel s'est formulé pour la première fois le thème selon lequel une guerre nucléaire mettrait fin à l'histoire de l'humanité. Donc nous ne sommes absolument pas les premiers à vivre des temps d'angoisse paroxystique.
Sur les temps d'angoisse écologique, là, est-ce qu'on pourrait...
Alors ça la différence, c'est que quand c'était la guerre entre l'Union soviétique et les États-Unis, il y avait le sentiment que ça relevait d'un type d'histoire assez classique, c'est-à-dire d'une histoire politique, dans lequel il pouvait y avoir un militantisme politique pacifiste possible, des accords diplomatiques, etc. Ce qui est extrêmement impressionnant avec les processus qui m'ont donné l'idée de réfléchir à de nouvelles figures du mal, c'est qu'ils sont essentiellement invisibles, insidieux, multiformes, etc. et qu'on voit extrêmement mal quelles sont les décisions politiques, l'identification des acteurs dont les conflits pourraient produire une catastrophe, et que ça contribue, ça redouble l'angoisse. Non seulement l'angoisse de la faim, mais l'angoisse de ne pas trouver les manettes sur lesquelles on puisse véritablement appuyer, en sachant à peu près ce qui va se passer si on pousse ou si on tire la manette, en diminuant ceci, en augmentant cela. Et ça fait une angoisse au carré, qui est liée à la paralysie. Et ça augmente la paralysie politique, parce qu'on peut très difficilement formuler les choses en termes politiques et économiques. C'est ça qui... On ne sait pas très bien comment faire.
Et alors, qu'est-ce que ça change? Donc, ça crée une angoisse démultipliée, dites-vous, une angoisse contre laquelle on ne peut rien, on ne peut pas grand-chose.
Moi, j'aime bien dire qu'on a beaucoup essayé l'angoisse pour mobiliser les gens. Ça ne marche pas pour une raison évidente, c'est que l'angoisse paralyse. Aussi, moi, j'ai suggéré d'essayer l'effroi.
Quelle différence?
L'effroi, c'est quelque chose qui est beaucoup plus violent, c'est-à-dire de donner une représentation extrêmement crue du type de mal, c'est pour ça que mon essai s'appelle « Le mal qui vient », du type de mal inédit, nouveau, absolument paroxystique vers lequel on va, et que c'est seulement en considérant jusqu'à quel point ça peut devenir atroce, épouvantable, glaçant, et donc une source de jouissance particulière pour certains. C'est ça ce que j'ai trouvé de plus horrible à penser. C'est une expérience de pensée un peu aversive, mais c'est pour ça qu'elle n'est pas très facile à faire. Eh bien, une fois qu'on l'a bien envisagé, il y a la possibilité de surmonter l'effroi.
Mais alors, justement, d'où vient cette jouissance?
Je ne pense pas qu'on ait besoin de en chercher l'origine, il suffit juste de constater qu'elle est systématiquement présente et systématiquement poussée sous le tapis avec l'idée que l'humanité ne peut pas vouloir se détruire, que nous sommes là pour toujours, qui sont des, à mon avis, des restes de métaphysique mal digérés, hein, qui viennent d'ailleurs en fait de la façon dont dans les années 60, les gens ont commencé à envisager la fin des temps, avec Jonas, avec Günther Anders, etc., en étant persuadés que l'essence de l'homme n'allait pas s'auto-détruire.
Jonas et Günther
Anders. Alors, Jonas, Günther Anders, etc., ce sont des gens qui, dans le sillage d'un philosophe allemand qui s'appelle Karl Jaspers, réfléchissent à ce que change dans l'histoire de l'humanité le fait que l'humanité a désormais entre les mains, avec la bombe atomique, les moyens de s'auto-anéantir. Et donc ils disent, voilà un fait historique qui doit nous amener à réfléchir à ce que c'est que l'essence de l'homme et à la possibilité que la technique, et notamment la technique militaire, etc., nous amène à une destruction globale de l'humanité. Si on détruit toute l'humanité, qu'est-ce que ça veut dire pour l'essence de l'homme ? Et ils considèrent tous qu'il y aurait quelque chose à l'intérieur de l'homme lié à son essence. C'est pour ça que c'est vraiment une philosophie assez idéaliste qui devrait faire en sorte que l'angoisse, le sursaut d'angoisse la protégerait et qu'à un moment il s'opposerait au destin historique qui les conduit à l'extermination, qui nous conduit tous à l'extermination.
Alors ce constat, il repose en partie sur une remarque exacte, en tout cas je vous pose la question, celle qui consiste à dire qu'il y a effectivement des pouvoirs inédits entre les mains de l'homme et que ces pouvoirs inédits, ils peuvent causer une fin du monde, ou en tout cas une fin de notre monde, là aussi inédite, Pierre-Henri Castel.
Oui, alors c'est des pouvoirs inédits parce que c'est des pouvoirs que les hommes ont entre leurs mains. Si vous parlez de la bombe atomique, quand on parle du développement économique et de la destruction des richesses de la planète par le développement économique, on parle de choses entre les mains desquelles nous sommes et qui nous transforment, qu'on le veuille ou pas. C'est pour ça que une des choses un peu choquantes, moi, que j'aime bien rappeler, c'est qu'il y a quantité de gens qui se baladent en disant la fin des temps, c'est le problème du capitalisme, c'est le capitalocène plutôt que l'anthropocène, etc. Quand les communistes étaient au pouvoir en Union soviétique, le niveau de dévastation de la nature auquel ils sont arrivés a quelque chose d'inimaginable. La Chine contemporaine est un exemple aussi de dévastation écologique, sanitaire, absolument épouvantable. Les Chinois ont peur de ce qu'ils mangent, par exemple. Et les Chinois, comme vous et moi, c'est pas du tout les pauvres. C'est tout le monde a peur en Chine de ce qu'il peut manger. Donc moi, ce qui me paraît très frappant, et c'est le point sur lequel j'aimerais bien insister, c'est que moi j'ai des étudiants chinois, par exemple, et moi je suis toujours frappé quand on me parle du capitalocène ou des choses comme ça, c'est que ces étudiants chinois ne sont là, et ces centaines de millions de Chinois ne sont sortis de la misère pour satisfaire des idéaux avec lesquels je suis d'accord, d'amélioration réelle de la vie des gens en masse, etc., que parce qu'on a détruit l'Amazonie pour leur donner à manger du bœuf nourri avec du soja, etc., et que donc la destruction de la nature, c'est tout à fait lié à des valeurs et à des choses pour lesquelles, politiquement, je suis tout à fait d'accord. Sortir des masses de gens de la misère en quantité énorme, etc. Donc ça n'est pas réductible au fait que c'est le mode capitaliste d'exploitation de la nature. Non, c'est vraiment le mode, même le fait que nous soyons ici à parler gentiment de sujets élevés, coûte de l'énergie, consomme de l'énergie. La démocratie, ça consomme beaucoup d'énergie. Ça consomme beaucoup de pétrole, ça a besoin d'une énergie gratuite.
Alors quelles sont dans ces conditions les alternatives, Pierre-Henri Castel ?
Alors moi ce qui m'intéresse, c'est que je n'en vois aucune, et je pense que d'ailleurs il faut se préparer à ce qu'il n'y en ait pas du tout, et que c'est ça, être sérieux.
Et dans ces conditions, cela conduit à quoi ? Une attitude contemplative par rapport à la fin du monde ?
Ça oblige, alors c'est une des choses que encore plus spéculatives qu'il y a dans le mal qui vient, c'est de se demander à quoi pourrait ressembler un bien qui vient.
Et ce bien qui vient, il pourrait venir de quoi, par exemple, puisque vous nous dites finalement...
C'est probablement lié au fait de ne pas du tout être intimidé par les images fascinantes qui excitent plein de gens avec l'idée qu'on pourrait non seulement tout détruire, mais trouver une sorte de volupté morbide et paroxystique à tout détruire. C'est une manière d'être, que même si on est les derniers, ça nous empêcherait par exemple pas de faire des enfants, de travailler, de continuer à vivre avec une certaine sérénité.
Eh bien, on va évoquer cela avec un horizon possible, celui de la collapsologie, ceux qui considèrent par conséquent qu'il faut vivre avec l'idée de la fin du monde. Votre livre, Le Mal qui vient, essai hâtif sur la fin des temps, est paru aux éditions du Cerf, Pierre-Henri Castel. On vous retrouve dans quelques instants. En attendant, il est 8h sur France Culture et je vous souhaite un beau réveil.
7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner.
Et nous sommes en compagnie du philosophe et psychanalyste Pierre-Henri Castel pour évoquer une échéance qui est peut-être une échéance moins lointaine que l'on pourrait le croire, celle de la fin du monde. Vous avez notamment publié Le Mal qui vient, essai hâtif sur la fin des temps, un livre paru aux éditions du Cerf. Et aujourd'hui, les discours sur la fin du monde se multiplient avec un terme particulier, celui de collapsologie. Et l'un des théoriciens de la collapsologie est venu ici même au matin et il a tenu à peu près ce discours. Écoutez-le.
Je ne crois pas du tout actuellement que le gouvernement tel qu'il est ou les multinationales, malgré les annonces, les effets d'annonce, peuvent radicalement changer les choses. Parce que vraiment, la question, elle est radicale au sens de prendre le problème à la racine. On est dans un verrouillage. Par exemple, un exemple de verrouillage, on a besoin de croissance pour avoir une économie saine et donc pour faire une transition énergétique avec des renouvelables, etc., majeures, on a besoin de croissance. C'est fou. Si, et un autre exemple, si on respecte la limite de plus de 2 degrés climatiques, j'avais vu ces chiffres, dans les années qui viennent, les entreprises pétrolières perdent 40 à 60% de leurs actifs. C'est un effondrement financier. Si on laisse les énergies fossiles dans les sous-sols, si on décide, les majors de pétrole s'effondrent, toute notre civilisation s'effondre. Donc on est dépendant de ces banques, de tout ce qu'on veut pas. En fait, on doit se tirer une balle dans le pied pour survivre.
La voix de Pablo Servigne, qui est aujourd'hui l'un des théoriciens de la collapsologie en France. Pierre-Henri Castel, quel est votre regard sur ce discours extrêmement anxiogène, sur le fait qu'il n'y aurait pas véritablement d'alternative à ce chemin tracé qui nous conduirait vers notre perte?
D'abord, je veux pas décevoir, mais mon livre n'est pas du tout sur la fin du monde, c'est sur le mal qui vient. C'est juste que la figure actuelle de ce mal qui pourrait se présenter à nous passe par des choses comme l'effondrement climatique et donc les crises géopolitiques que ça entraînerait et donc éventuellement les guerres auxquelles ça conduirait. Donc moi, j'ai pas du tout de position, je ne revendique pas de logis, n'est-ce pas, de collapsologie, etc. Pour moi, il n'y a pas de science de ces choses-là. Il n'y a pas de science de l'effondrement. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que ça donne un air du temps, une couleur particulière. Et je trouve que c'est plus intéressant de considérer ces propos comme des manières un peu scientistes, un peu comme ça, de mobiliser des chiffres, des statistiques, de prolonger des courbes pour donner une forme, entre guillemets, rationnelle à la désespérance qui peut frapper, effectivement, devant les modifications du climat et surtout les conséquences géopolitiques à plus ou moins brève échéance que ça va avoir. Donc moi, je suis plutôt partisan de considérer qu'il n'y a pas à prendre au sérieux l'aspect scientifique des choses, mais être extrêmement sensible à la modification des sensibilités qui est portée par ce type de discours.
Pierre-Henri Castel, vous êtes psychanalyste, je ne sais pas si vous avez des personnes en analyse avec vous, est-ce que ça modifie les imaginaires, les craintes, les anxiétés, les névroses ?
Un psychanalyste, c'est quelqu'un qui a des personnes en analyse avec lui. C'est même là ça qui se reconnaît. Est-ce qu'il y a des craintes et des névroses? Je suis pas du tout sûr que ce soit particulièrement significatif que ça passe pas. C'est l'anxiété s'accroche à ce qui se passe et donc les catégories, le discours du temps permet de le produire, mais ça le rend pas plus rationnel que d'avoir peur pour la fin du monde sur le divan. C'est pas pire que d'avoir peur pour la fin du mois, pour prendre ce sont des angoisses.
Mais justement, est-ce que ça veut dire que ça informe des angoisses qui étaient en quelque sorte préexistantes parce que l'être humain a besoin d'être angoissé et finalement qu'il soit angoissé pour la fin du monde, la fin du mois, l'important c'est qu'il trouve un objet. Alors cet objet peut changer, mais l'intensité de l'angoisse ne change pas. Ou est-ce que ça rend les individus plus angoissés?
Je crois que si on veut vraiment poser la question en termes psychanalytiques, moi ce qui m'a beaucoup amusé dans Le Mal qui vient, c'est que c'est une manière en réalité de reprendre un motif très particulier qui existe chez Freud et qu'on appelle l'idée de pulsion de mort. Freud se représentait les choses comme une espèce de pulsion particulière, de mouvement qui est un peu ontologique, comme c'est un truc extrêmement étrange qui affecte la totalité du vivant et qui essaie de ramener le vivant à un degré zéro, à quelque chose comme le froid absolu, à l'inertie, à la matière. Il avait une vision très naturaliste, très biologique de la chose. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'il formule ça au moment de la Première Guerre mondiale, au moment où il découvre ce que l'Europe civilisée est capable d'empiler les cadavres dans les tranchées sur des hauteurs vertigineuses en utilisant les moyens les plus sophistiqués de la science, et que ça produit chez lui une espèce de retournement. C'est-à-dire qu'en fait, jusque-là, la psychanalyse, c'était une sorte de psychothérapie qui était censée marcher mieux que les autres. À partir de la Première Guerre mondiale, de l'invention de cette notion de pulsion de mort, ça permet de soulever un problème sur le sens même de ce que c'est que la civilisation et la part d'autodestruction, de mort, d'anéantissement que porte ce processus même de civilisation. Et donc ça permet, si vous posez les choses dans ces termes, non pas de parler des patients qui sont sur le divan, mais du sens même qu'il y a à faire une analyse, c'est-à-dire de se confronter à la possibilité que les choses auxquelles nous sommes le plus attachés, la culture, la haute culture, la civilisation, portent en même temps la possibilité de l'anéantissement collectif et de la destruction de l'humanité. Sauf que c'est une vision de la pulsion de mort que je me suis amusé comme ça à proposer, je ne sais pas si ça elle sera prise au sérieux, qui est historique, hein, qui est vraiment au sens, c'est nous qui la faisons avec des moyens politiques qui la faisons advenir.
Mais alors, la différence encore une fois entre la crainte actuelle, celle d'une fin des temps, et d'autres craintes, vous évoquiez par exemple la crise des missiles
et fusées dans les années 60.
Ouais. La possibilité effectivement qu'il y ait un affrontement entre deux blocs par exemple. Là, il y avait la possibilité de faire de la politique. Aujourd'hui, avec un discours comme celui de Pablo Servigne, il y a aujourd'hui très peu de chances ou très peu de risques. Chacun décidera en fonction de ses goûts. Il y a très peu de possibilités, nous dit Pablo Servigne, qu'on échappe à cette fin des temps. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Je pense que c'est une question de, si vous voulez, d'immaturité à la fois de nos sensibilités collectives et du peu de catégories dont on dispose pour réfléchir à ce qui se passe. Parce qu'au fond, ça aboutit chez Pablo Servigne et beaucoup de gens comme ça à quelque chose comme une sorte d'idéologie New Age auquel on a enlevé les soucoupes volantes et auquel on a rajouté la permaculture d'une certaine manière, mais qui est au fond la mobilisation d'idéologies des années 60. Hein. Et qui montre au fond l'extrême pauvreté de l'imagination qu'on a. Et c'est pas du tout parce qu'il est en tort, c'est juste parce que le cheminement à l'intérieur de nos sensibilités, même de notre capacité à réfléchir, de la prise de conscience du fait que l'humanité est historiquement finie, hein, qu'on en a pour un certain nombre de siècles. Mon livre commence par la phrase « Il s'écoulera moins de temps entre moi et le dernier homme qu'entre moi et Christophe Colomb ». Voilà, par exemple. Je suis pas pressé, hein, ça peut être Jules César, comme j'aime à dire, hein, si vous voulez. En tout cas, vous voyez, penser comme ça, on n'en est absolument qu'au début. Donc ce sont des choses un peu prématurées que de le considérer en termes de science ou de connaissance de ça. Mais c'est quelque chose avec lequel il faut apprendre à composer.
Mais si c'est vraiment la fin du monde, à quoi bon se lancer dans la permaculture, Pierre-Henri Castel ?
Alors c'est une vraie question, ça. C'est que je pense que la position que j'adopte dans Le Mal qui vient, c'est une position de philosophe moral et même de moraliste, ce qui est plus gênant, mais bon, je l'assume effectivement, c'est que c'est pas du tout la permaculture plus qu'autre chose, hein, c'est l'attitude qu'on peut avoir à l'égard de ce que c'est que le bien et le mal, les engagements qu'on doit tenir, le fait comment on envisage sa propre mort, la destruction de sa propre société, et que c'est un type de question qui n'implique pas plus de choix pour la permaculture que pour autre chose. Mais qui oblige à une réflexion morale, personnelle et évidemment forcément collective, c'est-à-dire l'invention des catégories collectives qui permettent de concevoir ce qu'on laisse faire et ce contre quoi on se bat.
Oui, mais précisément dans les craintes, notamment pour un psychanalyste, aussi pour un philosophe, puisque vous êtes les deux, Pierre-Henri Castel, il y a des craintes que l'on a tout en sachant de manière assez confuse que ça n'est pas vraiment vrai, par exemple. Les fantômes, on peut avoir peur des fantômes, et puis on sait aussi que les fantômes n'existent pas, ou pas exactement comme on les imagine. Si on a peur de la fin du monde et qu'on se livre à de la permaculture, c'est peut-être aussi qu'on n'y croit pas complètement, Pierre-Henri Castel.
Je ne sais pas. Ça, c'est... Écoutez, dans quelques semaines ou mois, mon collègue Pierre Charbonnier va publier un livre que je trouve absolument fondamental sur ces questions, hein, ce qui est une critique de la raison écologique, dans lequel, entre autres choses, parce que c'est vraiment celui qui m'a le plus appris sur la question, il fait remarquer que le problème qui rend impensable ce qui se passe, c'est que les phénomènes du réchauffement climatique, toutes ces choses-là, ont été trouvés par des biophysiciens. Le fait que la biomasse, la totalité de la matière vivante que la lumière du soleil permet de produire sur la planète, la biomasse sur la Terre, 70% de cette biomasse est appropriée ou détruite par l'espèce humaine et il reste 30% pour les autres espèces. Ce type de calcul, par exemple, qui fait froid dans le dos, comment est-ce que vous le transformez en interrogation économique ou politique? Il manque tellement de catégories pour qu'on puisse construire des leviers qui permettent d'agir entre ces faits-là et ce que nous avons l'habitude de penser en politique ou en histoire ou en sociologie, il en manque tellement qu'à mon avis, le vrai enjeu, c'est de les inventer et de les créer. Et je crois qu'à cet égard, je suis désolé pour Pablo Servigne, mais la collapsologie, c'est un écran de fumée. C'est-à-dire que le type de travail intellectuel gigantesque qui est à produire pour transformer ces réalités en possibilité d'agir est entièrement devant nous.
Frédéric Saïs.
Oui, sur le champ politique, on a l'impression que de plus en plus, on nous laisse le choix entre deux types d'apocalypse. L'apocalypse écologique dont vous avez longuement parlé, et à droite et à l'extrême droite, une forme d'apocalypse migratoire, comme si le déferlement allait arriver sur les côtes européennes et détruire, nous disent-ils, à moyen terme, les sociétés dans lesquelles nous vivons. Quel effet cela a-t-il, cette double apocalypse qui est proposée, sur l'implication citoyenne, selon vous? Ça a tendance à la décourager, après tout, tout est foutu, ou ça a tendance à lui donner un coup de fouet parce que voilà,
je crois qu'elle la polarise, ça augmente la polarisation. Ça augmente la polarisation, ne serait-ce que parce que bon, il y a un lien, ça c'est sûr, mais il n'est pas si fort que ça. Hein, les migrants qui viennent chez nous, c'est plutôt le haut du panier. Lorsque les gens n'ont pas beaucoup d'argent, ils migrent, mais ils migrent dans les pays voisins, par exemple, hein, avant de venir chez nous. Donc c'est probablement beaucoup plus à mesure que l'Afrique subsaharienne se développera, qu'il y aura de plus en plus de gens qui auront les moyens de venir chez nous. Donc là, en fait, les mécanismes, pour ce qu'on en sait aujourd'hui, sont beaucoup plus complexes que ce qui nous est raconté. Mais je crois qu'il ne faut pas confondre deux choses. Il ne faut pas confondre l'angoisse qui se polarise et où chacun choisit ses objets d'angoisse ou de phobie particuliers avec ce que j'évoque, qui est en fait extrêmement rationnel et rationaliste et même peut-être un peu trop, hein, qui consiste à essayer de décrire effectivement quels sont les mécanismes réels et la manière dont le changement climatique peut modifier telle et telle situation politique. Parce que ça, en fait, on a extrêmement peu de moyens de le concevoir. Et j'aime bien le rappeler qu'en réalité, on le sait très peu.
Comment de moyens intellectuels, vous le dites.
Intellectuels, de catégories, de comment on passe de la question qui est 2 degrés qui augmente et puis ça s'est fait. Le GIEC a recruté beaucoup de géographes, de démographes, de sociologues, etc. Mais en réalité, tous disent qu'on ne sait pas bien comment penser ces choses-là, qu'on ne sait pas bien comment produire sur la situation des poignées, des manettes qui nous donne de quoi agir. C'est pour ça que, et ça, je trouve que c'est vraiment un des apports essentiels de ce que raconte Pierre Charbonnier.
Et alors, ceux qui nous expliquent pour différentes raisons, d'ailleurs, qu'ils y croient, qu'ils n'y croient pas, qu'ils utilisent ces raisons dans un but politique précis, ceux qui nous expliquent que nous courons les plus grands risques, une extinction, un effondrement, est-ce qu'il y a une jubilation, une joie particulière chez ces gens-là?
On m'a souvent posé la question, parce que j'y vais pas avec le dos de la cuillère dans la description du mal qui vient, que c'est une expérience de pensée très aversive, hein, c'est-à-dire on cherche le pire possible, et une fois qu'on l'a trouvé, on cherche s'il n'y aurait pas encore pire. Donc je vais pas éventer le contenu de mon livre, mais c'est une sorte d'expérience de pensée dans laquelle j'essaie d'aller le plus loin possible dans l'anticipation du plus catastrophique qui pourrait nous arriver, sans du tout m'intéresser au processus, économique ou climatique, juste en m'interrogeant sur le type de mal que ce genre de situation peut déchaîner. Je n'ai aucune volupté particulière à le faire. En revanche, je pense qu'il y a un truc qui est très important, c'est que c'est pas moi qui ai inventé la possibilité d'un égoïsme absolu de quelques-uns quant à la catastrophe, de gens qui veulent que ça aille extrêmement mal pour pouvoir tirer les marrons du feu, eux, leur famille, leur classe sociale, leur groupe, etc. Bon, et ça, que ça, je pense qu'il y a un intérêt très fort, de polémique violente, à le montrer du doigt et à l'appeler par son nom.
Bon, ça c'est un intérêt politique, mais un intérêt plus personnel, plus psychologique. Le Cassandre, est-ce qu'il a une joie particulière ?
Je ne sais pas. En tout cas, j'en ai aucune idée. Je pense que non, l'annoncer, non, je ne sais pas. En revanche, à faire le mal, non pas à l'annoncer, mais à le faire, ah oui, ça, il y a vraiment une joie particulière à faire quelque chose dont on sait que c'est complètement catastrophique pour le principe. Oui, oui.
Et alors, comment qualifieriez-vous la spécificité de cette joie, Pierre-Henri Castel ?
Ah, c'est une jouissance mauvaise. Et comme j'aime bien le rappeler en évoquant les moralistes qui me plaisent, comme Freud ou comme Nietzsche, ça existe vraiment. C'est quelque chose qu'on ne peut pas pousser sous le tapis en disant que ce sont des inventions philosophiques, religieuses ou morales. Il y a des gens qui, par principe, veulent le pire, oui.
L'autre conséquence de ce discours sur la fin des temps ou la fin du monde, c'est de changer précisément notre rapport au temps. Pendant très longtemps, on a accusé les hommes d'être trop présentistes, de ne vivre qu'au présent. Et là, il y aurait du coup un intérêt de plus en plus accusé pour le futur. Là aussi, qu'est-ce que ça change selon vous, Pierre-Henri?
Alors, je pense qu'il y a c'est ce sur quoi mon essai se termine. C'est que je parlais tout à l'heure de la pulsion de mort. La pulsion de mort chez Freud, c'est un truc assez rigolo parce qu'en fait, ça veut dire que le vivant essaie d'avancer et il est toujours rattrapé par l'état antérieur de la matière, par l'inertie, etc. Moi, ce que j'aime bien penser, c'est que la pulsion de mort vient du futur, que c'est pas nous qui allons vers la fin des temps, c'est la fin des temps qui vient à notre rencontre. Et que cette espèce de mur de la conscience du fait que nous sommes comme espèce et civilisation finie, hein, que nous nous rapprochons de cette fin, à mon avis, a un effet, alors je ne saurais pas l'expliquer complètement, hein, c'est un essai et puis c'est des hypothèses que les lecteurs feront ce qu'ils voudront, mais qui modifie complètement le rapport que nous avons à notre propre présence. C'est comme si des ombres particulièrement mauvaises, des ombres négatives, tombaient du futur sur le présent. Et ça altère profondément la façon dont nous vivons, parce que ça tue à la racine la croyance qu'un progrès quelconque, qu'un bien nous est promis, qu'un salut nous est promis. Et il y a une très jolie formule de Günther Anders qui parle de l'apocalypse sans royaume. C'est-à-dire que c'est l'apocalypse, mais sans la promesse de la restitution d'un monde meilleur et parfait plus tard.
Bon, mais alors ça, c'est une époque crépusculaire. Ça n'est pas quelque chose de complètement nouveau dans les écrits psychanalytiques. Freud, il avait quelques raisons d'ailleurs à le faire dans Malaise dans la civilisation ou dans d'autres de ses ouvrages. Pierre-Henri Castel, il y a des visions qui sont des visions extrêmement sombres. Encore une fois, je pense que son pessimisme se justifiait. Est-ce que ça veut dire que ce crépuscule-là, il est de retour ?
Oui, alors vous me disiez tout à l'heure, est-ce qu'on est pessimiste quand on est comme ça ? Non, ça veut juste dire que si nous voulons être heureux, nous avons peu de temps. Et que donc, ce qui se passe là, c'est quelque chose qui est entre nos mains. Et je pense que c'est une manière, en présentant les choses de cette façon extrêmement crue et brute et noire, c'est une manière aussi de présenter demain, non pas après-demain ou dans quelques siècles, demain ou après-demain, comme la seule occasion que nous avons de réaliser ce qui nous tient à cœur.
Alors, à ceci près que les écrits de Freud, qui étaient particulièrement pessimistes sur l'avenir de la civilisation, relevaient d'une vision pessimiste de la nature humaine, la nature des foules. Là,
des foules, oui.
Il s'agit d'une conception pessimiste des actes, pas forcément intentionnel des êtres humains, parce que dans le discours collapsologiste, il n'y a pas véritablement d'accusation d'inconscient de l'être humain dans sa volonté de détruire la nature. Qu'est-ce que ça change ?
Ça change que ça met complètement à nu le fait que la réflexion politique, c'est-à-dire la manière dont on peut construire collectivement des réponses à ce qui est à notre portée dans les situations actuelles, je suis frappé par l'extrême pauvreté d'imagination quant aux modalités nouvelles
seule d'organisation des collectifs qui sont nécessaires à la réponse aux situations dans lesquelles nous sommes frappés. Hein, c'est que, en recyclant des vieux trucs sur les utopies villageoises ou des choses de ce genre, qu'on est capable de porter une réponse qui soit à la hauteur des défis. Donc c'est pour ça d'ailleurs que mon texte est un texte de philosophe moral et pas du tout de sociologue, parce que je ne peux avoir qu'un rapport complètement négatif, indiqué l'insuffisance de la réflexion politique sur le type d'organisation collective, de production de catégories rationnelles qu'on puisse partager réflexivement, qui justifie la violence dont on va avoir besoin pour s'opposer à ce à quoi on peut encore s'opposer.
Mais pourquoi voulez-vous que les gens se fatiguent? Parce qu'après tout, les dystopies qu'on peut avoir sur la situation présente, elles sont fournies, je ne sais pas moi, entre Orwell et Kafka, on
les
trouve.
Pourquoi voulez-vous que les gens se fatiguent? Alors j'ai une réponse très simple, c'est le sous-titre de mon livre, c'est la hâte. C'est-à-dire que plus le temps va passer, plus la question va se poser pour chacun de savoir de quel côté il se trouve, du côté des victimes ou du côté des bourreaux.
Mais justement, l'intérêt de la collapsologie, c'est qu'il n'y a plus que des victimes.
Alors ça, c'est sa naïveté, parce qu'en réalité, le processus est un processus profondément inégalitaire. Faut, comme disait Jean-Baptiste Fressoz, il ne faut surtout pas s'imaginer que le Nord...
Un historien de l'écologie.
Un historien et un, aussi, on peut même dire, un sociologue, un philosophe de ces questions-là. Il disait très bien, très justement, qu'il ne faut surtout pas s'imaginer que c'est la Terre en entier ou la planète en entier qui va s'effondrer. C'est d'abord le Sud... et pas le Nord. Ensuite, au Nord, ce sera les pays développés et pas les pays moins développés. Puis à l'intérieur de chacune des structures, de manière très feuilletée, comme ça, ça va tout simplement faire exploser les structures d'inégalité qui structurent le monde contemporain. Et donc, de ce côté-là, c'est tout à fait... Il y a des tas de choses à faire, oui. Alors là, c'est très important à rappeler.
Qu'est-ce qui va se passer si cette hâte qu'on a à l'égard de la fin des temps, Pierre-Henri Castel, elle prend plus de temps que prévu? Est-ce que l'impatience va gagner ces foules qui ne voient pas d'apocalypse dans l'immédiat?
Ah ben, c'est tout à fait possible que, par exemple, certaines formes de religion. On croit toujours que les religions, c'est des choses qui sont fixées, qui existent depuis toujours, etc. Mais il n'y a rien exclu que de nouvelles religions, de nouvelles formes de religion viennent fédérer des passions, des modes de sociabilité particuliers qui naîtront en réponse à l'accroissement de la détresse et surtout à l'angoisse croissante de savoir de quel côté vous vous placez, du côté de ceux qui vont survivre ou de ce côté qui ne vont pas survivre.
Mais vous voyez, c'est ça qui est toujours un peu décevant dans ces visions millénaristes de fin des temps. On a débuté ce dialogue en parlant d'Abou Bakr al-Baghdadi. Lui prévoyait une fin du monde et une renaissance, ouais, à Dabiq. Dabiq a été perdu par l'État islamique, ça a été l'une des premières batailles perdues. Et pourtant, ça n'a en réalité absolument rien changé sur la détermination des soldats de l'État islamique. C'est-à-dire, on pensait qu'il allait y avoir un effondrement parce qu'ils voyaient bien que leur prophétie ne se réalisait pas. En réalité, il ne s'est rien passé. Ça veut dire qu'il y a une duplicité dans ces croyances collectives.
Mais chaque fois qu'on a fait des examens très fouillés de ces communautés qui croient à la fin du monde, on a toujours observé qu'en réalité, il y a des réaménagements, n'est-ce pas ? Les sectes millénaristes qui pensent que le monde va mourir dans les années 60, quand on les observe, etc. Mais quand 1960 arrive, alors on réinterprète le texte fondateur en disant « Ah non, mais on a fait une erreur de calcul, etc. » Parce qu'en réalité, ce qui compte, c'est le type d'effet de collectif qui est créé, l'adhésion que le groupe y donne et les satisfactions qu'il y trouve. Et ils préfèrent préserver ces espèces de liens, et notamment, c'est certainement un des ciments psychologiques des collectifs terroristes. Ils préfèrent conserver ce type de lien, quitte à réécrire le moment où la fin des fins et la justice arrivera sur Terre, et à le reporter plus tard, ou à dire qu'il y a une épreuve à traverser, etc. Et c'est la raison pour laquelle le millénarisme, qui est une des formes de la religion, pourrait bien, j'en sais rien, je ne suis pas du tout prophète, pourrait bien être une des formes politiques nouvelles, émergentes. Il n'y a aucune espèce de raison de croire que les religions, leur liste est déjà déterminée et que rien n'apparaîtra dans le siècle qui vient. Pour répondre à ces situations d'angoisse et créer des sociabilités qui permettent d'y répondre effectivement.
Vous n'êtes pas prophète, mais vous êtes psychanalyste. Et pour Freud, dans L'avenir de l'illusion et dans Malaise de la civilisation, l'une des meilleures manières justement de souder le collectif, c'était, oui, non pas le millénarisme, mais une haine déployée.
Entre le millénarisme et la haine déployée, je crois qu'il y a la conséquence est bonne, comme on dit en logique. C'est même à ça que ça sert.
Pierre-Henri Castel, Le mal qui vient, essai hâtif sur la fin des temps, c'est paru aux éditions du Cerf.